Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on se retrouve de 17h à 18h en direct, bien sûr, pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Daniel Faure et Bernard Lancel des Chœurs de la Pléiade. Ils nous présenteront deux concerts d'hiver qu'ils donneront les 15 et 16 janvier au Tremblay-sur-Mauldre et à Montrepas. Nous recevrons également Julie Mautier, responsable du service d'aide aux victimes de l'association DIRE, une association qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Elle nous parlera d'harcèlement scolaire et des actions menées par l'association, comme les permanences psychologiques ou encore les actions de sensibilisation en milieu scolaire. Les autres chroniques de Marmite fait son actu sont bien sûr au rendez-vous. L'actualité du cinéma Le Grenier à Sel avec Gaëlle, la minute conso de Pierre Joannet et qui nous parlera de l'origine des viandes en Europe et principalement en France, bien sûr. Et puis, nous aurons le petit traditionnel flash d'actualité locale à 17h30. Allez, comme à notre habitude, on s'écoute un petit morceau musical et on revient juste après avec Gaëlle pour parler cinéma. A tout de suite.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, I kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah, and anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide.
Yo, nobody.
Gonna find you.
Nobody
gonna find you and make you want.
The Fugees sur les ondes de Marmite FM 88.4. Il est 17h passé de 5 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Mercredi, c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le jour des sorties au cinéma. Et pour en parler, Gaëlle.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaëlle.
Comment ça va, Gaëlle ?
Salut Nouradine, bonjour tout le monde.
Ça va bien ?
Oui, ça va, merci.
Avec nous chaque semaine, Gaëlle, pour nous parler de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel, donc de Trappe, notre cinéma de proximité. Alors, quelle est l'actualité en ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe du côté du Grenier à sel ?
Ben, l'actualité, c'est que, surtout, moi je veux préciser aux auditeurs et aux auditrices de Marmite FM que... ils n'ont pas de chance de ne pas avoir la vidéo pour Marmite FM, parce que Nouradine sur les Fugees, c'était grandiose. Voilà.
Alors, on dévoile pas les secrets de fabrique.
Si, toujours, il faut.
Si, toujours.
Alors, moi, je vais... j'ai surtout envie de vous parler des films, parce que on a, cette semaine, on a pas mal de films, et en 5 films, on fait un peu le tour de la diversité du cinéma, et c'est assez intéressant. Du coup, là, le programme de cette semaine, il est vraiment très varié. Et donc, je vais vous parler de ces films-là. Et puis, je vous annoncerai aussi quelques événements sur le Festival Télérama de la semaine prochaine.
Ouais.
Alors, pour les films de cette semaine, je vous le disais, c'est varié, mais il y a quand même une thématique. Nous avons 5 films, et 3 films aiment bien les animaux. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, on a tous en scène 2, dont les personnages sont des animaux. On avait fait une avant-première de tous en scène de ce film-là. Et on avait fait beaucoup d'entrées au tout début des vacances de Noël, et c'était vraiment très bien. Donc, on a en guest star dans ce film Bono, le chanteur de U2, qui vient chanter.
Ouais.
Je vous avais déjà parlé parce que de ça, justement, lors de l'avant-première, parce que malheureusement, en VF, on n'a pas sa voix pour le personnage quand il parle, ouais. Mais on a sa voix quand il chante, c'est déjà pas mal. Non, mais malheureusement, effectivement, on l'a pas pour le reste du film. Donc, voilà, tous en scène 2. Autre film sur les animaux. Alors là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un documentaire animalier de Marvel. Ça te dit quelque chose ? C'est Spider-Man.
Ah, je me demandais, mais où est-ce qu'il va aller ?
Merci pour la... Voilà. Est-ce que je vous présente Spider-Man ? Non, c'est pas besoin. Peter Parker. Ah, tu le sais en plus, t'es au courant.
Ah oui, c'est un des rares trucs que je connais, parce que moi, si tu me poses des questions sur le cinéma en général...
Eh ben justement, c'est bien que tu dis ça, parce que figure-toi que dans l'épisode d'avant, son identité est dévoilée au monde.
Tout à fait, et donc c'est là, la dernière image.
Voilà, ça commence, paf ! Tout le monde sait qui est Spider-Man, qui est Peter Parker.
Le méchant dit que... Voilà,
évidemment,
c'est le méchant qui dit ça.
Il veut faire oublier ça à tout le monde. Et puis, ça se passe pas très bien, sinon il n'y aurait plus d'histoire. Et on recroise des tas de méchants, mais... il faut savoir quand même que ce film-là a déjà dépassé Titanic, en nombre d'entrées.
Ouais, ça. Voilà. Et Titanic qui avait déjà dépassé La Grande Vadrouille.
La Grande Vadrouille, oui. Et Avatar, enfin bon. Donc il est sorti le 15 décembre, on est le 12 janvier, il a déjà fait, il a déjà bien avancé.
T'as bien aimé d'ailleurs ? C'est divertissant.
Spider-Man ?
Ouais.
Eh ben je l'ai pas vu.
Ah tu l'as pas vu ?
Je fais pas partie, non, mais je l'ai pas vu. Je vais, voilà.
tu me diras.
J'en reparlerai plus tard. Non, en fait, j'attends de l'avoir aussi au Grenier à sel, parce que je fais le malin, mais c'est vrai qu'on a un super projecteur et un super son, et je suis très content de le découvrir dans ces conditions-là. J'aime beaucoup.
Il voilà. Faut le voir là-bas.
Okay. Voilà. Et on a aussi comme film animalier, ah là pour le coup c'est un vrai documentaire animalier, ça s'appelle La Panthère des Neiges, et c'est un documentaire qui était sélectionné au Festival de Cannes, qui faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Alors on part à la recherche de la fameuse, du fantôme, de la fameuse Panthère des Neiges dans les hauts plateaux tibétains. Ce film a la particularité d'être plutôt lent mais contemplatif, et en même temps on s'ennuie pas du tout, parce qu'on est vraiment dans on est vraiment aux aguets, on est vraiment en attente, on est vraiment comme le réalisateur, comme le photographe avec qui il est. On est assez excité parce qu'on attend la présence de cet animal fantastique, et il nous donne vraiment très très envie. En plus, on est dans une nature avec une beauté à couper le souffle, et c'est assez incroyable. C'est vraiment un documentaire de cinéma, et ça a toute sa place sur un grand écran. Je vous conseille vraiment de venir découvrir ça. C'est bluffant et c'est un bon moment. C'est pas du temps perdu. Voilà, on dit aux enfants que de temps en temps il faut s'ennuyer pour développer des choses. Bah, venez vous ennuyer devant ce film, parce que en fait on ne s'ennuie pas, et c'est très très bon.
C'est un beau film.
Voilà. Et nous avons deux autres films. Un film iranien qui s'appelle Un héros, de Asghar Farhadi, qui a eu le grand prix au Festival de Cannes. Donc c'est quand même une bonne marque, une bonne référence.
C'est superbe réalisateur. Hein.
Asghar Farhadi, il a beaucoup tourné. Il a tourné en France aussi, ouais. Notamment. Donc c'est un sacré bonhomme. Et il revient avec un film, encore une fois, impressionnant. L'histoire d'un homme qui s'appelle Rahim, qui est en prison parce qu'il a une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Mm-hmm. Et à un moment, il a une permission de 2 jours. Alors pendant ces 2 jours, il va essayer d'aller voir son créancier pour lui demander de retirer sa plainte. Et il va lui payer, en contrepartie, il lui paye une partie de la somme. Et évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu, et ça part, c'est médiatisé, on est sur les fake news, les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment, c'est sacrément bien écrit, bien joué, bien tourné. Vraiment un film que je vous conseille, donc Un héros, de Asghar Farhadi, qui a eu le grand prix au Festival de Cannes. Voilà les choses, les messages importants. Mmh. Et un dernier film, on a un film français qui s'appelle Cher Léa, de Jérôme Bonnel, dans lequel on retrouve Grégory Montel. Donc pour ceux qui ont vu 10%, Grégory Montel fait partie du casting de 10%. Et on a aussi Grégory Gadebois, un acteur français qui a jamais eu un vrai grand premier rôle, mais qui a toujours des seconds rôles fantastiques, un super acteur. Et Anaïs de Moustier. Alors... c'est l'histoire d'une séparation, c'est l'histoire d'un homme qui veut se remettre avec son ancienne petite amie, mais il est toujours amoureux d'elle, évidemment, mais elle le rejette, et un petit peu perdu comme ça, il s'appelle Jonas, et il va au café en face de chez elle pour lui écrire une lettre, et là c'est toute l'histoire de cette lettre qu'il écrit. C'est vraiment de la une belle écriture, c'est une lettre quoi, qui est bien écrite comme un livre, comme un roman, et la journée va être haute en émotion. Et voilà, ça s'appelle Cher Léa. Je vous invite à découvrir ça. Donc moi, je voulais vous parler aussi du Festival Télérama, qui aura lieu du 19 au 25 janvier, donc c'est la semaine d'après. Ça commence mercredi prochain. Le principe est simple. La rédaction de Télérama avec les cinémas, avec l'Association française des cinémas à réessayer, dont nous sommes adhérents, évidemment, sélectionne leurs meilleurs films de 2021, de l'année précédente. Donc il y a 15 ou 16 films, et nous on a décidé avec le cinéma d'Elancourt, donc le Ciné 7, nous avons décidé de nous répartir l'intégralité de ces 16 films, et comme ça avec notre carte d'abonnement, vous pouvez aller ou à Elancourt ou chez nous pour voir ce que vous voulez. Alors, il y a quelques petits événements. Déjà, je vous dis rapidement la programmation. Les films qui sont à trappe, il y a La Fracture, un film français, il y a First Cow, un film de Kelly Richard, il y a Le Sommet des Dieux, un film français sur l'escalade, il y a Dune, qui est la sélection spéciale pour les 12-25 ans, donc on l'a en VF et VO, il y a La Loi de Téhéran, un autre film iranien, un thriller fantastique, Nomadland avec Frances McDormand. Voilà la sélection, mais nous avons aussi Aline. Alors Aline, on a fait, c'est de Valérie Lemercier.
L'avant-première.
On avait fait une avant-première, on l'a programmé dans son actualité, et là on le reprend. Pourquoi on le reprend ? Parce qu'on a l'occasion d'avoir une visio avec Valérie Lemercier à l'issue du film. Et ça se refuse pas. Donc vous pouvez déjà réserver vos places, ça sera lundi 24 janvier à 20h. Donc elle sera, Valérie Lemercier échangera par SMS, on pourra lui poser des questions par SMS et elle répondra en direct. Le lundi 24 janvier. Nous avons aussi une avant-première d'un film qui n'est pas encore sorti avec Joaquin Phoenix qui s'appelle Nos âmes d'enfants. Ça sera le vendredi 21 janvier. Et notre collègue projectionniste Cyril a très envie de vous parler du film First Cow. Donc il présentera la séance du mercredi 20h45 de First Cow. Le petit truc que j'ai pas dit, c'est que si vous achetez le Télérama de cette semaine-là, vous avez à l'intérieur un petit papier à remplir qui vous donne accès à un pass. Et avec ce pass, vous avez un tarif de 3,50€ pour tous les films de Télérama pendant toute cette semaine. Donc vous pouvez venir chez nous au Ciné 7 et dans les autres cinémas qui font le festival pour voir tous les films qui vous intéressent.
Pour 3,50€, même si... quand on a une carte d'abonnement,
on n'est pas très loin.
On n'est pas très loin. Déjà, voilà. Avec le Gordier.
Voilà. Exactement, tu as bien raison. Tu as bien raison de le préciser. On a 4,30€ avec la carte d'abonnement à Trappe. Donc, on n'est pas très loin d'avoir un tarif de festival toute l'année. Voilà, vous retrouvez tout ça sur notre site internet cinémagrenierassel.com. Et puis, je vous en retirerai quelques mots la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Gaël. À la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Il est 17h16, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. On accueille nos premiers invités.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Daniel Faure, Bernard Lancel, bonjour.
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 Daniel Faure, vous êtes administratrice, des Chœurs de la Pléiade, notamment chargée des relations avec les salles de concert. Et Bernard Lancel, vous êtes toujours président donc des Chœurs de la Pléiade avec nous pour nous présenter les deux concerts d'hiver que vous donnerez les 15 et 16 janvier au Tremblay-sur-Mauldre et à Maurepas, après un concert de Noël que vous avez donné à Trappes le 11 décembre dernier. Donc ces deux concerts, nous allons en savoir plus dans quelques instants. Et puis nous écouterons également des petits extraits musicaux de ce que vous avez déjà fait sur scène, notamment ces mois passés. Alors avant de parler de ces concerts, est-ce que vous pourriez présenter les Chœurs de la Pléiade peut-être à nos auditrices, nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ?
Les Chœurs de la Pléiade sont une chorale d'adultes qui est active à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 45 ans maintenant.
Oui, déjà ?
Déjà. Nous spécialisons principalement dans les grandes œuvres du répertoire classique. On dit quelquefois en plaisantant que nous sommes les spécialistes des Requiem et des Stabat Mater. mais à l'occasion, nous chantons aussi des pièces plus légères, des petits morceaux qu'on appelle des motets ou des pièces comme ça, comme ce qu'on va chanter ce week-end. Il nous arrive aussi de chanter des chansons un peu plus légères, je n'irai pas jusqu'à dire grivoises, mais enfin, nous avons dans notre répertoire des chansons à boire et des mélodies un petit peu humoristiques, comme par exemple des choses qui ont été chantées par Francis Blanche à son époque. Un de nos ADN, c'est d'essayer de faire découvrir des pièces ou des compositeurs qui sont méconnus ou inconnus du grand public. Ça va être le cas justement cette fois-ci avec des compositeurs contemporains dont on va peut-être parler tout à l'heure.
Alors justement, qui compose ces chœurs de la Pléiade ? Des hommes, des femmes, bien sûr.
Alors,
parce que c'est un peu intergénérationnel. Voilà. Combien vous êtes ?
Alors, c'est un chœur mixte, donc il y a des femmes et des hommes. Comme dans la plupart des chorales, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Petit clin d'œil, messieurs, vous voyez, vous pouvez venir, hein, vous ne serez pas déçus. donc nous sommes, nous avons été très nombreux pour une chorale, nous avons été jusqu'à 130 à une époque. Là, évidemment, nous avons souffert de la pandémie, nous avons perdu des membres. Certains se sont mis en retrait pour des raisons de santé, parce que eux-mêmes ou leur famille présentaient des comorbidités. Donc, actuellement, nous sommes 65, mais nous espérons revenir d'autres membres lorsque la pandémie sera derrière nous, si elle est un jour derrière nous.
Bon, on espère avoir fait quand même le plus gros de cette pandémie.
En tout cas, 65, c'est quand même déjà un effectif... digne d'intérêt pour un chœur d'adulte. Oui, j'ai oublié de dire, nous sommes un chœur d'adulte, donc nous recrutons de 18 à plus de 80 ans, et notre doyenne a 82 ou 83 ans, nous avons eu dans nos effectifs, il y a quelques années, des étudiants qui avaient 18, 19, 20 ans. Alors le problème de ces étudiants, c'est qu'en général, ils ne restent pas longtemps parce que leurs études finies, leurs activités professionnelles les entraînent un peu partout. Mais voilà, donc nous recrutons de 18 à 80 ans.
Est-ce que vous proposez justement une formation ensuite? Est-ce que les personnes voilà, qui nous écouteraient, qui seraient intéressées par les chœurs de la Pléiade, qui souhaiteraient chanter, pourquoi pas, est-ce qu'elles doivent savoir un peu chanter? Est-ce qu'elles doivent voilà, avoir une petite formation? Ou est-ce que vous proposez ça également à celles et ceux qui seraient intéressés?
Alors, évidemment, c'est bien quand on sait déjà chanter. Mais ce n'est pas du tout un obstacle et nous proposons des formations. Nous proposons une formation en technique vocale parce que le chant, comme toute activité, il y a un aspect technique. Hein, le placement de la voix, la respiration sont des choses importantes et qui s'apprennent. Donc nous avons des formations dans ce domaine-là. Nous avons aussi une formation en solfège pour ceux qui ne lisent pas la musique. Voilà. Et puis, nous sommes en relation avec des associations nationales qui proposent des formations, des stages intégrés. Notamment, notre ancien chef de chœur, Gabriel Labaud-Arechner, propose régulièrement des stages d'été auxquels on peut participer.
Bah justement, vous me facilitez la transition, puisque votre chef de chœur, Gabriel Abouda, dont vous venez de parler à l'instant, n'est plus votre chef de chœur. Hein. Il y a un nouveau chef de chœur qui s'appelle Stéphane Ung, qui est en place depuis le mois de septembre. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots? Alors, Gabriel Abouda, elle est plus connue déjà de nos auditrices, de nos auditeurs, hein, puisqu'elle s'occupe notamment de la maîtrise de trappe et fait partie de l'association pour la promotion de la musique classique de Saint-Quentin en Yvelines, voilà, qu'on reçoit régulièrement ici sur nos antennes.
Voilà, Gabrielle nous a quittés pour se concentrer sur son travail avec les enfants, qui est quelque chose qui lui tient à cœur et où elle fait un travail fantastique. Donc nous avons recruté un nouveau chef qui est le directeur de, alors je ne me souviens plus le titre exact, mais enfin il dirige un grand service au conservatoire de Rambouillet, mmh. Il dirige plusieurs autres chorales dans la région, et il est effectivement depuis l'an dernier, mais l'an dernier nous n'avons pas pu beaucoup travailler, donc disons que depuis cette année vraiment, il est notre directeur musical. C'est un jeune chef, il a 32 ans, mais il est très très compétent et nous travaillons bien ensemble et nous espérons faire beaucoup de belles choses ensemble.
D'ailleurs, Daniel Faure, puisqu'on est, c'est plutôt vous qui vous occupez de la partie logistique, hein, si je puis m'exprimer ainsi, de trouver des salles pour permettre au chœur de la Pléiade de pouvoir se produire sur scène. Comment ça s'est passé pour vous ces années-là? Ça a été compliqué, hein, les années qui ne sont pas terminées, évidemment. Mais est-ce que c'est toujours compliqué de trouver des endroits pour jouer? Comment ça se passe?
C'est toujours un peu difficile, mais là, particulièrement avec le Covid, il y a eu... ça a été terrible parce que on avait retenu des salles et puis ça a été annulé au dernier moment. Oui. Et puis il a fallu reporter, on a reporté plusieurs fois. Chaque fois, bon, c'est quand même un engagement. Et puis donc les personnes en face sont pas toujours prêtes à renouveler cet engagement. Donc il faut chaque fois relancer, il faut faire tout un travail de recherche et puis essayer de contacter le plus de personnes possible. Mais enfin là, ça s'est pas mal passé parce qu'on devait chanter par exemple notre fameuse Missa Tango qu'on n'a pas réussi à mettre à programmer, mais on devait la rechanter à Versailles. Donc finalement on a pu obtenir la salle, en l'occurrence c'est plutôt une église, l'église Saint-Symphorien de Versailles. Et on est très content parce qu'elle est très grande, elle est très belle. Et puis, on va également chanter au Prisme.
À Élancourt.
À Élancourt. Mmh. Parce qu'on a obtenu de M. Mazori, qui est
l'adjoint à la culture,
donc la salle pour c'est le 4 juin. Donc, ce dont on le remercie d'ailleurs, parce que c'est un lieu qui est effectivement intéressant quoi, pour nous.
Alors, vous avez quand même réussi à jouer, hein, puisque vous avez fait au mois de septembre un concert à Ably, et puis plus récemment, le 11 décembre, vous étiez ici même, à Trappe, pas très loin de notre studio.
Oui, effectivement.
Comment ça s'est passé, ce concert, alors du 11 mai à Trappe? C'était un concert de Noël.
C'était un concert de Noël. Eh bien, c'était un petit peu... Bon, on a eu ce concert à Ably pour se remettre en jambes, je dirais, ça, c'était en septembre. Mais là,
allez-y.
Voilà, et c'était un concert commun avec un autre chœur, un chœur de femmes, tandis que là, nous étions tout seuls, donc c'était un peu une retrouvaille. Et ben, ça s'est très très bien passé. Le seul bémol, c'est que le public était clairsemé. Et je pense qu'il y a sans doute beaucoup de public qui hésite à venir au concert dans les circonstances présentes. Mais on a quand même fait un très beau concert et les spectateurs qui étaient présents ont été contents. On a été applaudis, on a dû bisser. Voilà, ça s'est très bien passé. Donc
ça, c'était une bonne chose.
Ça s'est très
chose.
Bien passé et on est toujours très bien accueillis à l'église de Trappes.
L'église Saint-Georges, oui.
Voilà. Hein, et donc, j'en profite, je l'ai dit lors du concert, pour remercier le Père Étienne et l'équipe paroissiale de Trappes qui nous accueillent toujours très gentiment.
Alors justement, venons-en aux deux concerts que vous donnez ce week-end, les 15 et 16 janvier. Les compositeurs qui seront à l'honneur, donc Eric Whittaker et Ola Gjeilo. Alors, ce n'est pas les plus connus du grand public, en tout cas, moi, c'est ce que je vous disais en préparant cette émission, je n'en avais jamais entendu parler. Alors, qui se charge de la présentation de ces deux compositeurs?
Alors,
Bernard, allez-y.
Alors, ils seront présentés dans le programme. Hein, donc je ne ferai pas une présentation in vivo, le programme présentera une biographie un peu abrégée de ces compositeurs. Détaillé. Ceci étant, pour ceux que ça intéresse, peuvent trouver beaucoup d'informations sur Internet. Hein. Ce sont des compositeurs contemporains, vivant actuellement, qui renouvellent un peu la musique classique, en ce sens que c'est une musique contemporaine, mais relativement classique dans son écriture. Hein, ça n'est pas du Messiaen, ça n'est pas du Jolivet, ça n'est pas des choses très très modernes comme ça, qui peuvent rebuter un public non averti. C'est une écriture très classique, notamment Ola Gjeilo, qui est un compositeur norvégien, et son œuvre est vraiment très, très aérienne, très éthérée, et ça fait un peu penser aux aurores boréales, quelque part.
Mmh. Et pour Eric Whittaker?
Alors, Eric Whittaker, c'est un compositeur américain, hein, et lui aussi fait des choses, alors, il fait des choses un petit peu dans le naturalisme, où par exemple on va chanter une œuvre qui s'appelle un peu la berceuse du phoque.
D'accord.
Voilà.
Ça c'est bien, vous pouvez juste vous arrêter là, la berceuse du phoque, ça donnera envie, ça a suscité la curiosité,
voilà,
certainement de nos éditrices et de nos auditeurs. Il y a une particularité d'ailleurs sur les deux dates que vous allez faire, les 15 et les 16, c'est que habituellement le chœur est plutôt relégué en second plan dans les concerts, mais là le chœur aura une place particulière, expliquez-nous.
Eh bien, surtout dans les grandes œuvres que nous avons l'habitude de faire, il y a un chœur, il y a le chœur, bien sûr, il y a souvent des solistes,
oui.
Il y a un orchestre, ou si ce n'est pas un orchestre, il y a un piano, deux pianos, il y a un orgue qui quelquefois partage la vedette avec le chœur. Là, le chœur sera seul, pour une bonne partie du concert, le chœur sera seul, c'est ce qu'on appelle a cappella, c'est-à-dire que le chœur chante sans accompagnement d'instrument, et puis il y aura une partie où on est accompagné au piano, mais ce sera un piano d'accompagnement, ce ne sera pas un piano de soliste.
Donc ce sont les voix qui seront mises en avant, les voix du chœur.
Exactement.
Mmh. On va terminer, si vous le voulez bien, avec les informations pratiques pour celles et ceux qui souhaiteraient participer, aller voir ces concerts concrètement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, que ce soit pour le 15 au Tremblay-sur-Moudre ou pour le 16 janvier à Maurepas?
Eh bien, il faut venir donc pour 20h30 à l'église du Tremblay-sur-Moldre. Alors, au Tremblay-sur-Moldre, il faut prévoir le parking, hein, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer, donc je conseille aux gens qui souhaitent venir de venir peut-être un peu en avance, et puis de prévoir de se garer un petit peu plus loin et de marcher un peu. Ça, c'est pour le Tremblay-sur-Moldre. À Maurepas, c'est à 16h30 à l'église Notre-Dame de Maurepas. Là, il n'y a pas de problème de parking. Il y a un grand parking là qui est celui de la place du marché. Et bien évidemment, il faut avoir son passe sanitaire.
Ouais, donc ça, à rappeler.
Et son masque.
Passe sanitaire et masque pour participer.
Et son masque, puisque nous-mêmes, nous chantons masqués.
Ah, alors comment est-ce qu'on fait pour chanter masqué?
Eh bien, c'est un peu compliqué. La respiration est plus difficile,
oui,
bien sûr, donc ça c'est un handicap. Que dire d'autre? Sinon, non, c'est pas. Voilà, c'est surtout la respiration qui est plus délicate. Alors, on s'est organisé. On a réussi à travailler l'an dernier avec une entreprise spécialisée qui a conçu pour nous des masques spécial chant, avec une matière un peu plus respirante que les masques chirurgicaux qu'on a l'habitude d'utiliser, et surtout avec un soufflet un peu plus grand qui permet d'ouvrir la bouche sans que le masque glisse.
D'accord. Voilà. Donc il y a, voilà. l'innovation pardon, au service. Voilà.
Exactement. Ouais. Exactement. Et je crois savoir que beaucoup d'autres chorales, d'ailleurs, ont profité par la suite de cette innovation.
Très bien. Mais écoutez, merci à tous
merci
les deux
à vous.
D'être venus au micro de Marmite FM. Daniel Faure, Bernard Lancel, des Chœurs de la Pléiade, pour nous parler donc de ces deux concerts que vous donnerez donc le 15 janvier, c'est à 20h30 à l'église du Tremblay-sur-Maudre. Et puis le 16 janvier, donc dimanche, c'est à 16h30 également à l'église donc de Maurepas. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller également sur, vous pouvez taper les Chœurs de la Pléiade sur Internet, vous tomberez directement sur le site Internet pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Il est 17h31, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Bon, avant les petites informations locales, je vous propose d'abord de respirer en musique, on a beaucoup parlé. 17h31, petite musique avec Abou Bekaouli, on revient juste après avec les infos locales, à tout de suite.
Bekaouli, 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 Kana, Donke. Bekaouli, 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 Kana, Donke, Na, Donke. Hey, so, ripapa, ritak, tak, tigidi, tak, 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 tak. Laisse-moi te faire danser, t'entraîner sur ce son pour rêver. Laisse-moi te faire oublier tous tes soucis, je t'emmène t'amuser. Laisse-moi t'inviter à danser, t'inviter à rêver, me laisser te tester, se laisser ambiancer, bouger, se déhancher, se laisser aller. Oh, je t'emmène avec moi, je t'emmène avec moi. Je remplirai ta vie de sourires, d'amour et de joie. D'amour et de joie, c'est ça, de sourire et de soi. Je remplirai ta vie d'amour et de joie, de sourire et de soi. Je remplirai ta vie. Bekaouli, 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 Kana, Donke. Comment va Bekaouli? Bekaouli, 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 Kana, Donke. Bekaouli, 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 Kana, Donke. C'est ça. Bekaouli, 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 Kana, Donke. Na, Donke. Viens danser, c'est, viens danser, ça. Viens danser, Kuma, viens danser. Viens danser, c'est, viens danser, ça. Viens danser, je t'invite à venir danser avec moi. Oublie tes soucis, tes peines, viens suis-moi. Au voyage vers l'amour et la joie. Mets de côté tes soucis, tes ennuis. Aujourd'hui c'est amour, joie, musique et folie. Mets de côté tes soucis, tes ennuis. Je t'emmène voyager dans mon Afrique, c'est promis. Mets de côté tes soucis, tes ennuis. Arrive le soleil après la pluie. Oh, viens danser. Nadonke, nadonke, Bekaouli Kana, nadonke, nadonke, Bekaouli Kana, nadonke, nadonke, Bekaouli Kana, nadonke. Oh, Kopeka Wili, Chérie, 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 Chérie,
caresses en bien. Je remplirai ta vie d'amour et de joie. Je remplirai ta vie d'amour et de joie. Je remplirai ta vie d'amour et de joie. Je remplirai ta vie d'amour et de
À bout sur les ondes de Marmite FM 88.4, 17h passé 36 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, je vous donne deux informations rapidement concernant bien sûr l'information locale ces derniers jours. D'abord, pour parler du coronavirus, le nombre moyen de nouveaux cas positifs a augmenté dans les Yvelines avec une moyenne de 6500 cas par jour. C'est près d'une personne testée sur 5, un nouveau record. Le taux d'incidence également a atteint un niveau record avec 3165 cas par semaine pour 100 000 habitants. La bonne nouvelle, c'est que cependant, les chiffres semblent se stabiliser et augmenter moins vite que les semaines passées. Information importante également pour demain avec une grève dans l'éducation nationale, grève nationale donc, suite à un appel intersyndical. Donc préparez-vous, parents d'élèves, élèves, voilà, pour garder les enfants, pour les occuper, pour télétravailler en même temps. Donc bon courage à toutes et tous avec cette grève en tout cas qui est soutenue, cette grève dans l'éducation nationale qui est soutenue par la majeure partie des associations et fédérations de parents d'élèves. Il est 17h passé de 37 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, on accueille notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Julie Mautier, bonjour.
Bonjour Noraline.
Vous êtes responsable du service d'aide aux victimes de l'association DIR, une association qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes avec nous pour nous parler d'harcèlement scolaire et des réponses que votre association apporte à cette problématique via un service que vous avez créé, donc des permanences psychologiques dédiées aux enfants victimes de harcèlement scolaire, mais également les actions de sensibilisation mises en place en milieu scolaire. Alors on va peut-être d'abord pour commencer, Julie Mautier, présenter ce service d'aide aux victimes dont vous êtes la responsable. Peut-être que nos auditeurs, nos auditrices n'en ont jamais entendu parler.
Alors effectivement, notre association est une association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Donc nous avons une équipe pluridisciplinaire de juristes et de psychologues qui prennent en charge toutes les victimes d'infractions. Donc ça va aussi bien de tout ce qui est victime d'atteinte aux personnes, des atteintes aux biens et effectivement, entre autres, les accidents de la circulation également. Donc nous recevons les personnes dans des permanences délocalisées dans plusieurs communes et nous leur proposons une prise en charge sur du court, moyen ou long terme. Les services sont bien entendu gratuits.
Alors justement, le sujet du jour, c'est le harcèlement scolaire. Quand on parle de harcèlement scolaire, Julie Mautier, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors le harcèlement scolaire, c'est une violence répétée qui prend plusieurs formes, qui peut être verbale, physique ou aussi psychologique. Et c'est une violence donc qui est perpétrée par un ou plusieurs élèves à l'encontre donc d'une victime. C'est une infraction qu'on rencontre malheureusement de plus en plus, ouais. Notamment parce qu'elle se développe également sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc nous avons pensé qu'il était pertinent de proposer une action spécifique pour les enfants qui en sont victimes.
Alors justement, pour rentrer plus dans le détail de ce harcèlement scolaire, voilà, comment est-ce qu'il se met en place justement, comment ça se met en place, comment ça se perpétue dans les collèges, dans peut-être aussi en primaire, ou est-ce que ça existe également chez les plus grands?
Voilà. Oui, le harcèlement en fait, il se fonde principalement sur le rejet de la différence et sa stigmatisation. Donc ça se met en place principalement parce qu'en fait, aussi bien dans le harceleur que dans le harcelé, ouais. Vous rencontrer la même faille. Chacun des deux a des difficultés dans l'estime de soi. Et en fait, l'un va harceler pour se rassurer lui-même, en fait. Ouais. Cette relation, elle ne se met en place aussi que parce que vous avez le phénomène de groupe, donc le regard extérieur. Le fait que, en fait, c'est une relation triangulaire. Vous avez une victime, mm-hmm. un auteur, mais un spectateur également. Et c'est ce regard et ce silence des spectateurs qui va favoriser le maintien du harcèlement.
Donc sans spectateur, pas d'harcèlement.
Exactement. Il faut que le groupe participe, en fait. Et participe, mais pas forcément activement. Hein. Le simple fait d'être silencieux sur ce qu'on voit participe à ce harcèlement.
Est-ce que c'est parce que, justement, ces spectateurs estiment que ce n'est pas si grave que ça ? Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ces détails-là, mais est-ce qu'on sait pourquoi les personnes qui regardent et qui voient quand même... des actes peuvent être violents, hein, parfois, se perpétrer sous leurs yeux, devant eux. Y en a qui participent, hein, pour certains, mais la plupart va rester silencieux. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi ?
Souvent, en fait... Le harcèlement, il est soit encouragé, soit ignoré par les autres parce que ils sont également soulagés, en fait, de ne pas être à la place de la victime. L'idée, c'est si je participe, moi, je ne serai pas visé, je ne serai pas harcelé, en fait.
Mmh. Alors, justement, comment se déroulent ces permanences que vous avez mises en place pour les jeunes, là, pour les enfants qui seraient victimes de harcèlement scolaire?
Alors, au sein donc de notre association, nous avons des psychologues qui peuvent proposer un SAS, en fait, un espace de parole dédié et bienveillant pour les enfants victimes. On n'a pas de notion de durée, donc l'enfant peut être reçu sur du court, du moyen, du long terme en fonction de ses besoins. Et dans cet espace de parole à lui, il va pouvoir aborder et mettre des mots sur son ressenti, sur son vécu. On va utiliser en fonction de l'âge de l'enfant des médias différents. Ça pourra être le dessin, ça pourra être la photo, ça pourra être beaucoup de choses, justement pour que l'enfant puisse exprimer en fait ce qu'il ressent. Le but étant de pouvoir éviter en fait les conséquences à long terme du harcèlement, parce que le harcèlement produit des conséquences aussi bien pour les témoins, les auteurs et bien entendu pour la victime.
Mmh. Alors, en plus de ce suivi psychologique que vous proposez, est-ce qu'il y a des solutions que vous proposez également qui pourraient être apportées à ces enfants victimes de harcèlement pour les protéger justement? Est-ce qu'il y a des choses justement que vous proposez à part ces permanences psychologiques?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a ces permanences psychologiques dédiées donc spécifiquement pour les enfants victimes de harcèlement qui se tiennent les mercredis. Mais sur nos autres permanences, notre juriste également peut recevoir les parents pour faire le point de la situation, voir avec eux concrètement ce qu'on peut mettre en place, ce qui peut être mis en place avec l'éducation nationale. Il faut savoir que au sein de rectorat, vous avez un référent spécifique de harcèlement scolaire. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place et il faut notre juriste explique aux parents tout ce qui est le cheminement en fait de la procédure.
Est-ce que ce sont généralement les enfants qui font la demande ou est-ce que ce sont les parents qui amènent leurs enfants justement dans ces permanences ou qui en tout cas essayent de résoudre les problèmes que rencontrent leurs enfants? Ça vient de qui ou est-ce qu'il n'y a pas de règles?
Non, c'est vrai que principalement ce sont les parents qu'on rencontre qui nous contactent pour que leur enfant soit suivi ou soit accompagné. On a rarement de contact directement par les enfants. Je pense que les enfants passent plus facilement par les numéros des coups de verre, etc., dont je vous donnerai les numéros tout à l'heure, que par directement l'association d'aide aux victimes. Même si effectivement on a mis en place des flyers qui ont été distribués dans les établissements scolaires, donc dans les collèges et dans les lycées. Pour que les enfants puissent s'en saisir.
Vous recevez beaucoup de demandes?
Là, depuis ces deux dernières années, malheureusement, avec la crise sanitaire que nous avons tous traversée, on constate une baisse de fréquentation de cette permanence. Alors, on a beaucoup réfléchi à la question, et effectivement, bon, il y a eu beaucoup de fermetures d'établissements, etc. Donc, le harcèlement, c'est peu à peu est devenu plus au niveau du cyberharcèlement. Et je pense que on en parle beaucoup, et c'est tant mieux, et ça permet aussi une prise en charge plus précoce, mais aussi on constate des enfants qui vont moins bien et qui ont plus rapidement recours aussi aux services médicaux.
Justement, vous en parliez tout à l'heure des conséquences du harcèlement, non seulement sur les personnes qui ont été harcelées, mais également sur les personnes qui en auraient été témoins. Quelles sont justement ces conséquences, en tout cas les conséquences principales sur ces jeunes qui ont été harcelés ?
Pour la victime, on a des conséquences, par exemple à court terme, qui peuvent être des troubles de la concentration, des replis dépressifs, une vraie perte d'estime de soi. Ça peut aller jusqu'à effectivement un échec scolaire ou un comportement violent. Et malheureusement, au très long terme, on peut avoir des gros risques de dépression massive, des troubles de socialisation qui peuvent même conduire jusqu'au suicide.
Ça, c'est dans les cas les plus,
les
plus dramatiques, bien sûr. Alors, au-delà de cet accompagnement, Julie Mautier, il y a aussi un travail de sensibilisation qui est mené par vos services en milieu scolaire. Comment vous procédez d'abord avec les jeunes, les enfants, les élèves, et puis après, on verra ce que vous faites également avec les enseignants.
Alors, au niveau des interventions de sensibilisation, donc c'est à la demande des établissements scolaires, on intervient auprès donc, de groupes classes et on brosse. Alors, c'est un binôme de juristes et de psychologues qui intervient. C'est intéressant parce qu'en fait, au-delà du côté un peu cadrant de voilà la loi, qu'est-ce que c'est, etc. Il y a la psychologue qui vient rappeler aussi ce qu'ils traversent, qu'est-ce que c'est que l'adolescence et ce qu'ils vivent en ce moment. Et on arrive sur le harcèlement et on leur explique effectivement, on leur pose quand même la loi, ce que dit la loi, mais aussi on essaie d'ouvrir sur le harcèlement et sans pour autant stigmatiser le harceleur. Oui, parce qu'en fait on constate que un enfant qui harcèle un autre enfant, c'est pas un enfant qui va bien et qui se fait plaisir. On est sur un enfant qui également souffre.
Ça permet de comprendre, en tout cas vous le disiez à l'instant, la stigmatisation. On pourrait se dire que ce gamin qui harcèle, c'est juste un mauvais gamin, quoi, un sale gosse qui veut s'amuser. Mais le fait de préciser qu'il y a aussi une souffrance qui peut être également derrière, c'est très intéressant. Voilà, vous disiez donc que vous intervenez dans ces classes, un binôme juriste et psychologue. Vous rappelez la loi, évidemment. Et ensuite ?
Et ensuite, effectivement, on rentre donc dans le mécanisme du harcèlement, comment il se met en place, comment il se maintient, quelles sont les conséquences, et surtout, et ce qui est intéressant et important à rappeler, c'est comment on peut repérer en fait le mal-être chez l'autre, et l'importance d'être attentif en fait aux autres, de prendre le temps d'aller vers l'autre, de parler, sans forcément chercher des solutions, mais juste d'être présent.
D'ailleurs, une parenthèse, parce que vous êtes juriste, Julie Mautier, que risque un enfant est-ce qu'il y a des risques pour un enfant qui harcèlerait un autre enfant? Est-ce qu'il y a des risques juridiques? Je ne sais pas si on peut poser la question comme ça. Quels sont les risques? C'est important peut-être qu'il le sache. Je ne sais pas si c'est suffisant pour faire réfléchir des collégiennes, de collégiens. Quels sont les risques encourus?
Oui, le harcèlement scolaire est une infraction avec des sanctions spécifiques. La peine encourue, alors il y a un grand débat actuellement de la création d'une infraction spécifique au harcèlement scolaire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Pour le moment, on est sur des sanctions sans circonstances aggravantes. Je vous parlerai des circonstances aggravantes après, mais sur des sanctions d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En sachant que c'est important de rappeler que dès lors que l'enfant est mineur, ce sont les parents qui sont civilement responsables, ce qui veut dire que toutes les sanctions financières, ce seront aux parents de les assumer.
D'accord.
Les circonstances aggravantes, elles se retrouvent principalement dans le cyberharcèlement, où là, les sanctions sont au maximum de 2 ans et de 30 000 euros d'amende. Donc, c'est une infraction qui est réellement sanctionnable.
Mmh. En tout cas, c'est des sanctions quand même importantes.
Oui, voilà. Bien sûr.
Parce qu'on parle quand même de 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, c'est assez important.
Oui, et puis c'est important aussi de rappeler que, par exemple, dans le cyberharcèlement, souvent on oublie que on se dit, moi j'ai pas fait de, enfin, je participe pas au harcèlement, j'ai juste mis un commentaire parmi plein d'autres. Mmh. Mais en fait, le simple fait d'avoir mis un commentaire, dès lors que successivement plusieurs personnes ont mis des commentaires, il y a répétition. Et donc, même si on ne s'est pas concerté avec la personne qui a mis le commentaire au préalable avant, on est quand même, on participe et donc on peut être accusé de cyberharcèlement.
Voilà, donc merci, ça c'était pour la parenthèse juridique. On va revenir justement à ce travail de sensibilisation. Alors, vous nous avez expliqué ce que vous faites justement avec les jeunes. Maintenant, au niveau des encadrants, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un problème également au niveau des encadrants. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, un tabou dans l'éducation nationale par rapport à ces questions d'harcèlement scolaire? Alors d'abord, quel travail vous faites? Et puis après, peut-être revenir sur cette question.
Alors, il y a de gros progrès qui ont été faits au niveau de l'éducation nationale. Ils ont de plus en plus de formations et ils ont des référents, effectivement, donc, dans chaque rectorat. Donc, il y a quand même de grosses actions qui sont mises en place. On a fait des interventions auprès de bassins, beaucoup auprès de, pas forcément de professeurs, mais de CPE, etc., ouais. Pour justement rappeler, et principalement sur le cyberharcèlement, parce qu'encore le harcèlement classique, entre guillemets, ils ont peut-être au niveau de l'éducation nationale plus l'habitude, mais c'est vrai que le cyberharcèlement, c'est compliqué pour tout le monde parce que ça ne se passe pas dans l'établissement, donc même pour les sanctions, c'était compliqué. C'est facile de sanctionner dès lors que ça se passe dans l'établissement, mais c'est moins facile dès lors que ça se passe en dehors, à la maison, sur les réseaux, etc. Ouais. Donc voilà, on a participé à des interventions de sensibilisation sur le cyberharcèlement. Après, on développe de plus en plus d'actions avec les établissements et c'est vrai qu'on aimerait que plus d'établissements s'en saisissent de ces interventions.
Comment agir si on suspecte un cas de harcèlement chez un enfant? Voilà, on se dit, ah tiens, ce gamin-là, peut-être qu'il a harcelé, ou qu'on a carrément vu, hein, qu'on a des éléments probants qui prouvent qu'un enfant a harcelé nous, soit en tant que parent, en tant qu'adulte, ou si on a un enfant, par exemple, qui nous dit, tiens, papa, maman, il se passe ça dans l'école, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Bon, ce qui est important, c'est déjà d'écouter, d'être attentif effectivement à la parole et de faire quelque chose. C'est ce qui est très difficile et ce qui amène justement aux conséquences du harcèlement, c'est quand on ne fait rien de ce qu'on nous dit. Mmh. Quand l'enfant fait confiance, parle et que derrière, on n'en fait rien. Donc s'il parle à ses amis, les amis, ne pas hésiter pour le coup à aller voir le référent adulte en qui on a confiance. Si vous êtes le parent et que votre enfant vous en parle, ne pas hésiter à demander à rencontrer la direction de l'établissement ou monter plus haut si vous avez des difficultés à parler avec la direction de l'établissement. Comme je vous disais, vous avez des référents effectivement au sein de l'éducation nationale. Vous avez des numéros verts donc, qui existent, qui peuvent être directement, vous pouvez les contacter en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que victime, en tant que témoin, ce sont des numéros gratuits. Donc je pense notamment au 3020, qui est le numéro non au harcèlement. Vous avez un numéro spécifique sur le cyberharcèlement qui est le 0800 200 000, qui c'est Net Écoute. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous êtes témoin, c'est important de garder des traces en fait de ce qui se passe. Alors je dis pas qu'il faut filmer l'action parce que ça participe aussi au harcèlement. Quand je dis garder des traces, c'est aussi peut-être noter en fait que tel jour il est venu vous parler, etc. Parce que peut-être vous serez ensuite auditionné par la police pour avoir des éléments, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est possible de faire un dépôt de plainte. Donc c'est important aussi de garder des éléments de ce qui a pu se passer, de faire des captures d'écran par exemple, si ça se passe sur Internet, pour pouvoir avoir un maximum d'éléments pour votre dépôt de plainte.
Mmh. Et du coup, si on passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des enfants qui sont harcelés, des jeunes qui sont harcelés, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter? Alors, je ne sais pas, en tant que parent, en tant que, si on est un collégien, une collégienne, qu'on a un copain, une copine, voilà, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter et qui peuvent nous dire, ah tiens, ce gamin-là, peut-être qu'il est harcelé?
Souvent, c'est un repérage qui est plus... on voit mieux, entre guillemets, au niveau des parents, par exemple, si vous voulez être attentif, effectivement, à un certain nombre de choses, vous pouvez voir, c'est des enfants qui ont des changements brutaux d'humeur, par exemple. Ouais. Bien sûr, le classique, le trouble du sommeil, les troubles d'alimentation, des enfants qui sont plus irritables. Mmh. Au niveau de l'établissement, ça va être des enfants qui peuvent arriver en retard parce qu'ils ne veulent pas venir, des chutes de leurs résultats scolaires, des difficultés de concentration, hein, ce genre de choses en fait.
Pour terminer, Julie Moutier, alors au mois de novembre dernier, on va pas faire de politique, je vous rassure tout de suite, hein. Mais le président de la République, justement Emmanuel Macron, a quand même dit des phrases assez fortes en disant que la honte devait changer de camp, qu'il y a beaucoup de choses qui allaient être mises en place, notamment sur le numérique. Voilà, est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ou est-ce qu'il faudrait faire encore plus pour vous qui, voyez, voilà, régulièrement, soit dans les permanences, soit quand ce que vous constatez sur le terrain, voilà, il y a des certificats qui vont être mis en place, certificats de l'usage du numérique. Il y a les parents qui vont être également sensibilisés au contrôle parental ou sur comment le mettre en place. Voilà, comment vous voyez ça, vous, en tant que personne sur le terrain qui pratique au quotidien?
Je pense que c'est important d'expliquer aux gens quand même, effectivement, entre guillemets, Internet, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de parents qui ont du mal à imaginer ce qui s'y passe, en fait, ce qui est possible de s'y passer, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant. Il y a, je pense à nos collègues gendarmes qui participent, enfin, dans les établissements scolaires, ouais. Un permis Internet. C'est intéressant aussi d'expliquer aux enfants les limites, en fait, de ce qu'on peut y trouver. Donc tout ça est intéressant et je pense que dès lors qu'on fait preuve de bonne volonté, c'est intéressant. Ce qui serait pertinent, ce serait de faire plus d'interventions de prévention en milieu scolaire. Ouais. Je pense que ce qui manque beaucoup, c'est la prévention auprès des jeunes, d'expliquer à ces jeunes en fait en réalité ce qui est en train de se passer pour eux et pour leurs camarades. Peut-être travailler plus sur je vais dire des clichés, mais peut-être travailler un peu plus sur la bienveillance qui manque de plus en plus.
Ce sera le mot de conclusion. Ah, on va peut-être ajouter une dernière question d'ailleurs pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, qui souhaiteraient vous contacter ou qui souhaiteraient justement bénéficier des services que vous proposez. Comment ils font concrètement?
Alors concrètement, ils peuvent nous contacter par téléphone au 01 30 44 19 87. Ils peuvent aussi trouver sur notre site internet tous les éléments de contact et reprendre toutes nos actions. Donc notre site internet est www.associationdire.fr.
Associationdire.fr. Merci beaucoup Julie Mathieu.
Merci Nouradine.
Je rappelle que vous êtes responsable du service d'aide aux victimes de l'association DIR, donc association Igny-Montaigne, et que vous étiez avec nous pour nous parler notamment d'harcèlement scolaire. Merci beaucoup. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, la Minute Conso de Pierre Joanet.
La Minute Consommateur avec Pierre Joanet.
Plusieurs fois annoncée, mais toujours repoussée, l'obligation d'étiqueter l'origine des viandes devrait se mettre en place courant de cette année 2022. Les consommateurs sauront enfin d'où vient la viande qu'ils mangent, pas seulement celle de bœuf et de mouton, dont l'étiquetage est obligatoire depuis 2000, suite à la crise de la vache folle, mais aussi celle de porc et de volaille. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, a annoncé que cette réglementation, tant attendue par les consommateurs, mais aussi par les éleveurs français, serait promulguée. La loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires date de juin 2020. Mais le décret d'application concernant l'obligation d'étiquetage se fait attendre, la mise en œuvre ayant été compliquée à la fois du fait de procédures européennes et françaises, justifie le ministère de l'Agriculture. Cette fois, c'est promis, il sera signé et il concernera toute la restauration hors domicile, collective, c'est-à-dire cantines, hôpitaux, EHPAD, restaurants d'entreprise, etc., et commerciale, les restaurants. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui en contrôlera la bonne application. Espérons qu'il ne sera pas retoqué comme l'a été récemment la réglementation sur l'étiquetage de l'origine du lait. A priori, non, car ce décret a fait l'objet d'échanges avec l'Union européenne. De plus, on notera que, s'agissant des viandes, l'obligation d'indiquer l'origine des viandes en restauration collective existe déjà en viande bovine, a souligné le ministère.
Marmite fait son actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle les horaires de rediffusion, donc vendredi de 17h à 18h pour la première rediffusion et le samedi de 12h à 13h pour la seconde rediffusion. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 17h pour un nouveau direct. Et d'ici là, bonne suite de programme sur Marmite FM.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.